Quiconque ose défier la puissance de Mr. D doit être puni. Vous errerez désormais dans un podcast inconnu, jusqu'au royaume d'iTunes, où vos telex resteront inertes.
Non, pitié.
Eh mais j'ai rien demandé, moi.
Quid Novi, des telex antiques, mais pas en toc. Bienvenue dans l'épisode 2, et oui. Déjà l'épisode 2 de Quid Novi, le podcast en toge et en sandalette. Et vu le beau temps et la chaleur actuelle, je dois avouer que c'est assez confortable. Pour m'accompagner dans cette petite demi-heure de podcast, je vous présente Esferet.
Bonjour.
Et surtout et aussi, le grand retour de Samson.
Salut.
Alors cette semaine, c'est Péremptoire qui est absent et on le salue bien bas et on le laisse travailler tranquillement pendant son été. Alors tout d'abord, un grand merci à vous pour tous vos commentaires sur FreePod et sur SoundCloud et aussi sur Facebook.
Et oui, sur Facebook, on a créé une jolie page, voilà, où vous allez pouvoir commenter, c'est un peu plus simple que Twitter pour ça. Et on va surtout vous mettre les telex de l'épisode qui est sorti, on va en mettre un par jour. Voilà, comme ça vous aurez les liens, et vous pourrez les commenter, on espère que ça va ouvrir beaucoup de discussions.
Et on pourra rajouter aussi des petits liens complémentaires, les petites vidéos rigolotes qu'on a pu trouver, et puis alors tu peux reciter l'adresse de la page Facebook?
Oui, alors c'est facebook.com/quidnovipodcast, et d'ailleurs si vous avez un compte Facebook, de toute façon vous pouvez le trouver dans la barre de recherche, quidnovipodcast, tout simplement.
On a besoin de commentaires, plein. Des commentaires, on en a eu énormément. Alors, on va citer un petit peu toutes les personnes qui ont commenté. Je vais commencer par Dorito79, Hook Hook, DZ Rider, Light Geek, Anthony Star, Xilrian. Toi, tu vas te revoir. Swanounet, Randall Flag, Big Banner, Keninette, Vigi Corsair, Osef92,
Adran Malek, Isotac, Remshaya, Spider Yoyo, F Galis, Kiyang888, Cobal, Matteo Penaud, Guy Conora et Armos FR qui me reprochent de respirer, donc je vous signale à tous là que je vais tenter de faire cet épisode en apnée. Merci beaucoup Armos.
Oui mais c'est normal, tu es breton, les bretons ont des compétences bien précises dans tout ce qui est le domaine de la mer. L'apnée ça devrait pouvoir le faire. Alors normalement là il respire plus, merci Armos, c'est vraiment sympa.
On a perdu Sferet.
Ça y est, j'arrive déjà plus.
C'est mort. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'une maison sonde, d'archéologie de Mona Lisa, un robinet très spécial, de gants pour sourds-muets, de chinois doués pour le copier-coller. Ensuite, c'est Esferet qui nous fera une rubrique culturelle sur...
Eh bien, on va parler gadgets et tissus.
Du tissu, qu'est-ce que ça peut bien être?
Vous verrez plus loin de quoi ça parle.
Et on terminera par Samson qui nous fera un compte-rendu de...
Du Festival d'Avignon 2012.
Festival de l'Enfer.
Ah non, ça c'est le Hellfest, je crois.
Oui, enfin, quoique... Enfin, j'ai jamais fait le Hellfest, hein, mais dans le genre... Genre chaudron garni...
genre infernal, mais avec moins de bière, ouais. Mais avec plus de monde, ça se pose là.
C'est pas mal non plus, quoique... Enfin, je vous en parlerai tout à l'heure, mais cette semaine, cette année, c'était très light par rapport aux autres années, voilà.
On est bon, on attaque les Telex?
C'est parti.
Parti.
Les Telex, présentés en toge et en sandalette. Alors cette semaine, c'est moi qui vais commencer. Si je vous dis 2009, Pixar, est-ce que ça vous dit quelque chose?
Pas grand-chose non plus.
Hein. Un film sorti en 2009 par Pixar.
Ah, là-haut peut-être?
Voilà, là-haut. Si je vous parle de Carl Fredricksen, qui est en fait la personne âgée qui est le héros de là-haut. Il est un ancien vendeur de ballons à la retraite qui a décidé de réaliser le rêve de sa vie et faire voler sa propre maison. À l'Amérique du Sud, en accrochant des milliers et des milliers de ballons gonflés à l'hélium sur sa maison et la faire décoller. C'est sympa comme histoire, vous l'avez vu ou pas?
Je l'ai vu quand c'est sorti. Vous l'avez bien aimé? Moi j'avais vraiment beaucoup aimé.
Bien, imaginez que le National Geographic s'est inspiré du film.
Non!
Et si, aussi!
Ils l'ont fait!
Ils l'ont fait! Alors, c'est pas tout neuf, c'est un telex antique, puisque ça date de la mi-2011, mais le National Geographic a décidé de faire voler une maison. Donc, ils ont construit une maison en contreplaqué toute simple, réplique de celle du film. Ils l'ont chargée de ballons sondes gonflés à l'hélium, et ont fait décoller cette maison sur un aéroport privé de Los Angeles. Elle a atteint quand même 10 000 pieds d'altitude, ce qui fait à peu près 3 000 mètres, et a volé pendant à peu près une heure.
Une heure, d'accord. Et c'est devenu quoi après?
Ça avait deux objectifs, à la fois faire un hommage à la film là-haut, apparemment magnifique. Si je l'ai pas vu, et de deux, c'était pour une nouvelle série de documentaires du National Geographic qui devrait être diffusée récemment sur la planète, la couche de jaune et toutes les préoccupations écologiques qu'on peut avoir. À la fois un hommage un peu geek et puis une promotion intelligente, c'est plutôt intelligent de la part de National Geographic.
Je veux dire que c'est du Yann Arthus Bertrand mais qui pollue pas, quoi.
Yann Arthus Bertrand, joli, et un peu plus intelligent. Et après, c'est Samson.
Eh bien, la semaine dernière, on a eu deux nouvelles à propos de l'archéologie. Alors tout d'abord en Italie, près du couvent de San Orsola à Florence, il y a des archéologues qui espèrent et supposent que l'un des squelettes qu'ils ont retrouvé et exhumé appartienne à Lisa Gherardini. Qui est-elle? Ben, c'est Lisa del Giocondo, dite Mona Lisa.
Oh, voilà. Ah, c'est pas Lisa Simpson alors?
Non. Parce que je sais pas si elle a des os en fait. Elle. Bon, ben, c'est pas grave. Plus j'enchaîne, plus exactement, ce sont trois nouvelles tombes qui viennent d'être découvertes. Les ossements ont été envoyés au département pour la conservation des biens culturels à Ravenne, au nord de l'Italie. Et ils ont prévu d'y comparer l'ADN présent dans les restes avec celui découvert dans d'autres ossements qu'ils ont exhumés sur le même site. Après ça, ils tenteront, attention, de reconstituer le visage qui recouvrait le crâne découvert pour voir s'il y a une quelconque ressemblance avec le tableau de Léonard de Vinci, ce qui corroborerait l'hypothèse partagée par la majorité des chercheurs, comme quoi la Joconde serait bien Lisa Gherardini. Parce que, bon, il existe plein d'autres hypothèses. Hein.
J'ai une petite question. Est-ce qu'ils vont faire comme dans Jurassic Park? Reprendre l'ADN dans le squelette, la greffer avec une grenouille et refaire revivre...
Lisa Gherardini, je ne sais pas.
Oh, je sais
pas si c'est une bonne idée, je suis pas sûre. Enfin, j'ai très peur de ce qu'on retrouverait finalement. Enfin...
Ouais, et puis après tu l'exposes dans le Louvre à côté de la peinture.
Si elle peut faire fuir les touristes pour qu'on puisse vraiment l'observer,
c'est pas faux.
Ce serait pas mal. En fait, toutes ces fouilles ont beaucoup déplu à une des descendantes de la fameuse Lisa Gherardini, qui est une princesse italienne, hein, très noble, qui s'appelle Natalia Strozzi. Et elle dit que c'est carrément un sacrilège, qu'on pourrait laisser reposer ses ancêtres en paix, et gna gna gna, et tout ça. Enfin bon, elle a profité de ça pour passer la télé, et je crois qu'elle était très contente. Voilà, alors ensuite, je vous emmène au nord du Guatemala, à 550 km à peu près du nord de la capitale, quoi. Sur le site de Zotz, où une équipe d'archéologues aurait découvert les vestiges d'un temple maya dédié au soleil nocturne, sous une pyramide dite du diable.
Ouh.
Et ouais. Et oui, ils y ont trouvé des masques énormes à 1m50 de haut, et une grande frise vraiment incroyable qui donne des éléments sur sa fonction d'hommage au soleil nocturne.
Mais permets-moi de te couper, le soleil nocturne c'est quoi?
Alors,
du coup
le soleil nocturne en fait c'est...
Enfin, ça...
c'est
une éclipse solaire ou quelque chose comme ça?
Ouais, je pensais à ça peut-être.
Ils le disent non pas ça.
Ah, ah désolé, tous les potes.
C'est
ça m'a juste
sympa
intrigué, le soleil
non,
nocturne,
je sais pas. C'est en fait.
La lune, peut-être, je sais pas, non.
Il doit y avoir un concept de soleil, d'éclipse, en fait.
Éclipse solaire, peut-être la face cachée de la lune avec les masques géants de 1m50 de haut. Est-ce qu'il pourrait annoncer le retour des Transformers sur Terre?
Mais non, vous n'avez rien compris. Ce dont il s'agit, c'est qu'ils ont fait Ibiza en dessous d'une pyramide. Ils ont baptisé la pyramide du diable. Et en dessous, bah, c'était une boîte de nuit, c'est tout. En tout cas, pour en revenir à quelque chose de plus sérieux, le soleil nocturne, d'après le Popol Vuh, qui est la Bible maya, est personnifié par un jaguar. Et sur cette frise, il y a beaucoup de jaguars. Donc la découverte est de taille, car ce temple abriterait le premier gouvernement qui aurait été enterré sous cette pyramide, à savoir le fondateur de la première dynastie, Del Zotz, connu sous le nom de Pachan. Ils ont commencé les recherches sur ce site en 2006, et les principales découvertes ont été faites ces trois dernières années, avec au total 200 structures. Voilà, mais le problème c'est qu'ils se sont rendus compte que des pilleurs étaient déjà passés par là en 1970, à peu près, dans ces années-là, parce qu'ils ont retrouvé un linteau en bois au musée de Denver qui provient de ce site.
Et est-ce que ça a un rapport avec le retour des mystérieuses cités d'or?
Ah.
En tout cas, je trouve que ça fait remarquer comment ces civilisations-là, on n'en entend pas du tout parler. Enfin, là, tout ce que j'entends, je le découvre et ça me dit vraiment rien, quoi. Alors que pourtant, j'ai fait un peu des études d'histoire et voilà, quoi. L'histoire à l'occidentale, on n'en entend tellement pas parler de ça que
c'est une grosse spécialité.
Ce petit commentaire. Mais tu vois, c'est impressionnant qu'on n'en ait même pas des rudiments, quoi.
Tu veux dire à l'école jusqu'à 16 ans, c'est ça?
Programme peut-être suffisamment dense aussi pour pouvoir ajouter l'histoire précolombienne, l'histoire d'Amérique du Nord, Amérique du Sud, peut-être juste l'histoire entre guillemets européenne.
Ouais, mais même dans notre mémoire et dans notre culture commune, quoi, au-delà de l'école, jamais on en parle, quoi, à part des Mayas pour le 21 décembre 2012, on parle pas beaucoup.
À part les fantasmes qu'on peut avoir dans la littérature, la SF ou autre, on n'a pas vraiment de.
Ouais, c'est vrai qu'on parle plus de l'Antiquité, de la Grèce, de Rome, de ces civilisations-là qui nous concernent peut-être un peu plus. Mais sachant qu'en plus tout s'est développé en parallèle de notre civilisation européenne, quoi, indo-européenne. Moi j'ai découvert ça avec mes études à moi de musique, parce qu'il y a un compositeur qui s'appelle Edgar Varèse qui était fasciné par la culture maya et aztèque, notamment maya en fait, et qui a écrit sur le Popol Vuh justement des pièces pour orchestre assez dingues. Peut-être un lien sur la page Facebook.
Le teasing.
Teasing.
Alors maintenant c'est Esferet.
Oui, moi je vais vous parler de designers et d'ingénieurs coréens qui ont proposé un nouveau système que je trouve vachement intéressant, qui est de coupler une turbine avec un robinet pour tout simplement faire de l'énergie, de l'électricité, quoi. Donc ils ont baptisé le projet ES Pipe Water Wheel, et du coup bah tout simplement quand on ouvre le robinet, il y a une espèce de turbine qui est coincée dans le tuyau juste avant et qui permet pour tous les endroits non alimentés en électricité, ils pensent beaucoup aux pays en développement, en Asie, tout ça, de faire de l'électricité. En fait, et du coup, il faut pas juste allumer son robinet pour avoir de l'électricité, c'est un peu plus subtil que ça. Il y a quand même de la sauvegarde d'énergie qui est faite dans l'espèce de pré-robinet qu'il y a juste avant que l'eau coule, et ça permet donc de sauvegarder l'énergie et puis de l'utiliser simplement pour des petites ampoules. Ça va pas alimenter un frigo pendant non-stop. Voilà, ça permet juste de s'éclairer. Bon, à savoir que c'est du courant du coup qui a pas les mêmes normes qu'ailleurs, donc il faut des ampoules spéciales. Donc, après, à voir comment est-ce que ça va être adopté par la population de ces pays-là, mais en tout cas, je trouvais que l'idée était intéressante.
Alors, c'est une idée qui existe déjà pour dans les petits gadgets, ça s'appelle les pommeaux de douche lumineux. Des pommeaux de douche avec des LED de toutes les couleurs qui changent de couleur en fonction de la température de l'eau. Et ces LED sont alimentés par la pression d'eau dans le pommeau de douche.
Ah oui, moi je croyais que c'était... Enfin, j'en ai jamais eu, mais je pensais que c'était des trucs qui étaient branchés, en fait.
C'est vraiment alimenté par la pression de l'eau. C'est vraiment tout con, c'est
oui.
Super rigolo.
Ça c'est peut-être quand même un peu plus utile que d'éclairer sa douche, mais en tout cas c'est le même principe, ouais.
Alors, est-ce que vous connaissez l'Imagine Cup de Microsoft ?
Ça me dit vaguement quelque chose, mais tu m'as dit Microsoft, alors...
Quelque chose. En fait, c'est un concours annuel réservé aux lycéens et aux étudiants qui récompense des inventions dans différents domaines des nouvelles technologies. C'est un concours qui a été créé par Microsoft en 2003. En fait, je vais vous parler d'une invention d'un des grands gagnants de cette année. Ça s'appelle le Enable Talk, le pouvoir parler. En fait, c'est un gadget tout simple qui est basé sur une paire de gants et bardé de différents capteurs, que ce soit des accéléromètres, un gyroscope, des aimants, etc. Ces gants vont permettre de détecter la position des doigts et des mouvements que la personne va faire. Et tous ces mouvements vont être transmis à un smartphone. Le truc vraiment génial avec ce petit truc, c'est que cette paire de gants couplée à un smartphone de type iPhone, un Android Phone, etc.
Windows Phone peut-être, comme c'était l'imagine.
Windows Phone aussi, va permettre de transformer le langage des signes, ainsi détecté par les gants, en langage parlé, en utilisant un synthétiseur vocal. Ça pourrait rendre la parole au sourd-muet et permettre de faciliter les échanges avec, on va dire, les valides.
Oui, c'est surtout ça, parce que le langage des signes, c'est
une vraie belle parole, mais qui est limitée à ceux qui connaissent le langage des signes.
D'ailleurs, je me permets de dire que les gens qui bossent dessus, et les sourd-muets, tout ça, préfèrent qu'on dise langue des signes que langage des signes, parce qu'ils revendiquent ça comme étant une langue à part entière et pas un langage.
D'ailleurs, pour la petite histoire, enfin rien à voir, mais au début, quand ma fille parlait pas, j'ai essayé quelques mots comme ça pour elle, et on arrivait à communiquer un petit peu. Bon, après, la parole est venue assez vite, mais ça peut servir en tout cas pour les petits enfants, langage des signes. Alors imaginez si on met les capteurs sur les mains d'enfants.
On s'en sert aussi chez les primates. Les gorilles, on a appris à certains gorilles à utiliser le langage des signes. Ils apprenaient au bout de 2-3 ans, 150, 200 mots courants. On a pu comme ça créer des dialogue entre le soignant et le gorille qui permettait au gorille d'exprimer parfois des émotions, des envies, etc.
Ça, c'est assez dingue.
Alors, ce sont 5 étudiants ukrainiens qui ont gagné ce prix de 25 000 $ et ils cherchent actuellement des investisseurs puisqu'ils visent une coût de production de chaque paire de gants de 20 $. C'est absolument ridicule.
Ils mériteraient plus. Hein.
C'est bien ça.
Et c'est tout simple puisque la paire de gants est reliée à un smartphone. Il suffirait juste de développer une application et de la faire marcher avec les gants.
Voilà. Après, il faut espérer qu'elle marche non pas comme Siri, qu'il faille absolument une connexion, parce que sinon, les pauvres sourds-muets qui habitent en campagne et qui n'ont pas la 3G,
c'est
tant pis pour eux.
On verra, mais je trouve que c'était quand même assez intéressant comme invention. Maintenant, c'est à Esferet.
Moi, je vous emmène en Chine, où on a déjà connu des affaires de faussaires avec les iPhone 5 en précommande, par exemple, récemment, ou 5 faux Apple Store qui avaient été montés aussi dans ce pays-là. Et là, alors, j'ai deux nouveaux faussaires. Un, alors c'est assez original, qui a fabriqué une fausse université. C'est-à-dire que, du coup, les étudiants qui postulaient pour la fac avaient fait acte de candidature et ils ont reçu des fausses lettres d'admission, alors qu'en fait, ils étaient refusés, et des fausses lettres d'admission qui les emmenaient vers cette école, cette université qui était fausse, et pour laquelle il fallait payer 30 000 yuan, c'est-à-dire 4 000 euros quand même, pour l'année, et où et les cours étaient complètement bidons, il y avait très peu de profs, ils n'arrivaient jamais à les contacter, tout ça, et forcément aucun diplôme à la clé.
Ils sont forts ces Chinois, quoi.
Oh, mais quelle horreur.
Et ouais. Et alors, dans la même idée, peut-être un peu moins embêtant, avec un peu moins de victimes, je sais pas, Lin Shunping, qui était un ancien marchand de riz, qui a fabriqué de toutes pièces une banque, l'Atlantic Bank of America, dans le Delaware, donc aux États-Unis, qu'il a ensuite acheté lui-même 60 millions de dollars, et il prétend donc, pour réussir à faire cet achat et à rameuter des investisseurs, tout ça, que l'établissement est vieux de 85 ans, mais qu'il a vécu la crise. Bon voilà, c'est facile en même temps de prétexter une faillite dans la conjoncture actuelle. Mais il se trouve que, en fait, c'était une banque qu'il a inventée de toutes pièces, et que, alors en mars 2012, il a admis qu'il y avait une petite entourloupe dans l'achat, qu'il avait exagéré les prix par rapport aux investisseurs et tout ça. Et en juin 2012, l'enquête a révélé qu'il n'y avait tout simplement pas d'Atlantic Bank of America, et donc qu'il avait été arrêté tout simplement, quoi. Donc moi, j'ai envie de conclure en disant, méfiez-vous des marchanderies.
Ah ouais.
C'est horrible. C'est horrible de dire ça.
C'est quoi cette conclusion, franchement, mais c'est
oh
quoi
non. Tu as tué mon frère Akhtat. Tu vas mourir.
C'est ça.
C'est dans OSS.
Ouais, c'est 117.
Tu dois mourir.
Ah, excellent.
T'es sûr que tu veux cette conclusion-là?
Ah oui, moi ça me fait rire.
Alors, cette fois-ci, c'est une rubrique culturelle, pas de péremptoire, mais avec S-Forêt.
Chut, c'est la rubrique culturelle de péremptoire.
Voilà une lourde tâche à laquelle je m'attelle aujourd'hui, faire aussi bien que péremptoire dans les deux précédents numéros, donc je vais essayer en vous parlant de l'origine des mots autour du gadget et du tissu. C'est pas forcément très aguichant, mais vous allez voir, ça vaut son pesant de cacahuètes quand même. Vous connaissez tous la statue de la liberté, qui a été offerte par la France aux États-Unis en 1884, donc, et qui vient des ateliers Gadget et Gautier.
Ah,
et déjà à l'époque, les produits dérivés étaient bien lucratifs. Et voilà, c'est de là que ça vient. Monsieur Gadget, Gadget, ça s'écrit G-A-G-E-T, décide de fabriquer des modèles miniatures de sa grande statue. Et aux États-Unis, c'est un grand succès commercial. Et il donne donc le nom du créateur à l'objet. Et l'accent américain aidant, le mot gadget devient gadget. Et voilà, c'est ainsi qu'est né normalement ce mot-là. Mais cette jolie histoire n'est pourtant pas l'explication qui est donnée par le petit Robert, puisque, selon ce petit Bob, gadget viendrait plutôt du mot gâchette. C'est moins poétique, mais ça me permet de faire une petite transition vers l'uniforme des GI, gâchette, GI, voilà, qui était GI, alors... est-ce que vous savez, vous, que l'uniforme des GI, donc GI, au passage, qui veut dire Government Issue, puisque c'était la fourniture du gouvernement, et que ces petits écussons étaient cousus sur tous ces uniformes, était fait de jean. Et du coup, voilà, ça permet de parler un petit peu de ce mot-là. Alors, c'est un français, Lévi-Strauss, qui déjà en 1567 lance une fabrique de coton qui était teintée de bleu, tout simplement, et sa fabrique était basée à Nîmes, et le tissu vient donc de Nîmes. Dénin. Enfin voilà,
c'est pas vrai.
Si, c'est de là que ça vient.
Le poil de Nîmes.
Le dénin. Et ses pantalons,
je me coucherai moins code ce soir.
C'est le but de la rubrique. Et c'est pas tout, parce qu'en plus, après, ces pantalons, on va finir par les appeler des jeans quand les Américains les importent, parce que c'est par le port de Gênes que ça passe. Et en fait, les Américains, ils appellent ces produits venant de Gênes, et quand on dit ça rapidement, Gênes, jean, et c'est avec l'accent américain, c'est devenu jean comme ça. Alors que maintenant, on l'écrit J-E-A-N, mais ça vient de la ville de Gênes, en Italie.
Rien à voir avec Jean.
Non, pas du tout.
Rien à voir avec les jeans, les monstres.
Non plus,
persans,
non plus, malheureusement, ça aurait été poétique aussi, mais.
Rien à voir
non
plus.
Non, décidément.
L'orthographe n'est pas la même pour les jeans.
Non, c'est vrai. Non, mais en même temps, quand tu vois que ça vient de Gênes, écrire ça J-E-A-N, c'est.
C'est tordu,
c'est,
oui.
C'est tordu, voilà. Pour continuer dans le tissu.
L'origine du tissu remonte à la nuit des temps. On estime son apparition aux alentours de longtemps avant Jésus-Christ.
On a aussi les fameux scratchs qu'on appelle les velcro, et en fait ça vient de la contraction de velours, donc le V-E-L de velours, et de crochet. Et enfin, sachez que le mot nylon possède plusieurs histoires. Alors la première, ce serait les initiales de Know You Lousy Old Nippons, qui veut dire bien fait pour vous, vieux Jap. Alors une autre explication, un peu moins crue, serait que ce serait les initiales des épouses de chaque chercheur qui avait mis au point ce matériau. C'est assez mignon. Il y en a aussi qui, il y en a qui disent que comme c'est du tissu qui ne filait pas, les Anglais l'ont appelé No Run, puis le mot se serait déformé. Et la dernière proposition est une contraction de nil, qui vient de vinyle, et de on, de coton en fait. Donc voilà, c'est à vous de choisir quelle étymologie vous préférez.
Ah, la No You Lose All Nippon me plaît bien. Ouais. Je crois que j'en avais entendu parler de celle-là, puisque apparemment il y avait un labo japonais et un labo américain qui étaient en concurrence, voilà, sur la création d'un nouveau fil textile artificiel. Et apparemment, les Américains auraient damé le pion au dernier moment aux Japonais. Mmh. Ils auraient donné le nom de ce textile avec cet acronyme.
Ah, excellent.
C'est comme ça que mon prof de physique me l'avait raconté.
Voilà, bah du coup, j'espère que toutes ces étymologies vous ont plu.
Oh oui, beaucoup.
la spontanéité de ta remarque me rassure.
Mais si, carrément.
Studio, mais là,
ah non, c'était trop bien.
Bon, tu peux enchaîner, Barberousse.
Et maintenant, on va passer à Samson. Nota bene, ce qu'il vous faut voir, lire, regarder et écouter.
Eh bien moi je reviens du Festival d'Avignon, donc la 66e édition du IN, plus le OFF évidemment, on voit surtout le OFF en fait, hein, parce que le Festival IN, je vais vous l'expliquer un peu, c'est un peu comme le quatrième acte, le quatrième acte de Diablo 3, c'est un peu l'étage des anges, et le OFF c'est un peu la plèbe, mais en tout cas les deux sont très intéressants et assez complémentaires. Donc un petit rappel historique, le Festival d'Avignon c'est un festival de théâtre et du spectacle vivant créé en 47 par Jean Villard, dans le but de toucher un public jeune, attentif et nouveau, à un théâtre plutôt différent, dépoussiéré, en le sortant des salles pour l'ouvrir à des lieux différents en plein air, voilà. Donc en 1968, se greffera en parallèle le Festival OFF, car des artistes locaux voulaient profiter de cette occasion pour montrer leur travail. Donc petit à petit, des artistes de tout le pays sont venus, et même maintenant aujourd'hui, on a des gens du monde entier qui viennent présenter leur spectacle. Donc la différence majeure entre les deux, donc le Festival IN, c'est le théâtre subventionné, intellectuel, conceptuel, avant-gardiste, où les arts se mélangent avec des plasticiens, des scénographes, et même cette année on a eu Christophe Honoré qui est plutôt cinéaste, là qui a fait un spectacle sur le nouveau roman, je vous en parlerai plus tard. Donc les spectacles sont sélectionnés par un comité, et puis pour avoir sa place il faut s'y prendre vraiment à l'avance, et c'est un peu comme le tournoi de Roland-Garros, quoi, pour avoir ses places c'est un peu galère. Mais ça fait toujours plaisir d'y aller parce que ça offre des spectacles, alors soit très chiants, soit très intéressants, soit vraiment enthousiasmant, voilà, au choix.
Est-ce que c'est accessible au public?
C'est-à-dire au public, bah oui, bien
sûr. N'importe qui, quelqu'un peut prendre sa place là-bas, bien sûr, et puis voir.
Enfin, disons que comme faut réserver vraiment à l'avance, bah faut vraiment le vouloir, mais c'est ouvert à n'importe qui, hein. Évidemment, bon, moi j'avais un ami qui jouait dans le spectacle, donc j'ai pu avoir une place que j'ai payée, hein, mais qui était accessible. Comme ça, c'est vrai qu'on y voit beaucoup de professionnels, hein, quand même, du spectacle, qui vont voir ces spectacles, mais évidemment, c'est accessible à n'importe qui. Maintenant, le public, c'est surtout les bourgeois d'Avignon, en tout cas pour les non-professionnels. Et pour le Festival OFF, par contre, donc, toutes les compagnies peuvent y participer. Ça coûte de l'argent quand on n'a pas une maison de prod derrière, on met de ses sous, quoi. Et pour avoir un horaire dans un théâtre, sachant que chaque théâtre, ça commence en général à 10h du matin et ça finit à 2h du matin dans les programmations. Donc, il y a des théâtres qui ont 13 spectacles dans la journée. Voilà.
Ah ouais, quand même.
Ouais. Pour avoir une place au début en tant que spectateur, c'est assez simple, hein, mais on peut s'y prendre à la dernière minute. Par contre, ça devient de moins en moins le cas au fur et à mesure du festival si le spectacle marche bien, bien entendu. Donc c'est un festival à majorité francophone, mais aussi on a des spectacles venus de l'étranger, comme les spectateurs d'ailleurs, il y a beaucoup de spectateurs étrangers. Et d'ailleurs dans le programme, il est notifié si le spectacle a besoin d'une compréhension particulière dans la langue française ou pas.
Est-ce que c'est aussi un festival où, entre guillemets, les producteurs, les gérants de salles de théâtre font leur marché?
Complètement, voilà. Ça, j'y venais, donc c'est un festival où, en fait, le principe, quand on est festivalier, quand on est comédien, musicien, enfin, qu'on a un spectacle à vendre, en fait, c'est le Festival Off, ça représente le plus grand marché, supermarché du spectacle vivant, en fait, du monde, quasiment. Donc, effectivement, tous les programmateurs, c'est et même étrangers, des pays limitrophes, viennent ici pour voir beaucoup de spectacles et faire un peu leur marché, voilà. Donc, cette année, il se tenait du 7 au 28 juillet, donc là, c'est en train de finir, à l'heure où nous enregistrons. L'ambiance du festival, alors côté spectateur, c'est foisonnant, vivant, remuant, c'est tout sauf calme hein, comme place, mais on est assailli de toutes parts, par des personnes qui tractent, pour peu qu'elles ne t'arrêtent pas pour t'expliquer leur spectacle pendant 2 minutes. On a droit à des parades plus ou moins réussies. D'ailleurs, j'ai trouvé des cosplays de la Japan Expo, des fois mieux réussis que certains costumes de scène des comédiens qui paradaient.
Qu'est-ce que t'appelles les parades ?
Alors les parades en fait c'est, imagine toi tu joues un spectacle mettons à 16h et tu te dis bah faut que je passe de la pub, comment je fais? Alors t'as plusieurs options, tu colles tes affiches dans toute la ville comme un grand malade sur les câbles, sur les poteaux, sur les murs.
Comme à peu près tout le monde en fait.
Voilà, comme tout le monde, donc c'est très drôle parce qu'on a le droit de les placarder 3 jours avant le début du festival. Et donc à chaque fois tu vois dans la nuit tout le monde avec ses affiches, avec ses échelles, enfin c'est assez marrant en fait, c'est vraiment de l'ordre du jeu, quoi. Et tu distribues des tracts aussi dans la rue, voilà, la journée. Et puis, t'as une autre option, tu rends le truc vivant, en fait, en faisant une parade. C'est-à-dire, tu me prends un extrait de ton spectacle, n'importe, et tu peux le jouer à une terrasse, enfin, une terrasse de café. Tu poses devant, alors, moi j'avais des amis qui jouaient dans un spectacle musical, bah, ils ont pris leurs instruments, ils ont chanté. Faut vraiment susciter l'intérêt, t'es obligé, en fait, de te faire remarquer,
ouais,
parce
ouais,
que cette année, quand même, il faut savoir qu'il y avait 1161
oula,
spectacles
vache.
Donnés dans 104 salles de théâtre.
Faut se tirer du lot,
alors
quoi.
Des théâtres permanents ou bien des salles éphémères juste créées pour l'occasion, ça arrive. Mais bon, malheureusement, cette année, il y avait moins 30% de fréquentation, que ce soit du public ou des programmateurs. Donc ça, c'est vraiment la crise hein, qui touche le spectacle vivant et on a pu le voir. Bon, ça, en tant que spectateur, ça nous donne un festival plus respirable. On arrive à trouver une place en terrasse dans la journée. Mais par contre, pour les spectacles, enfin pour les compagnies, quand ça marche pas, ça marche vraiment pas. Et là, tu mets la clé sous la porte, tu peux même arrêter de jouer en fait en plein milieu du festival. Et rendre le créneau au théâtre, quoi. C'est vraiment dur. Mais en fait.
Vraiment sans pitié.
Ouais. Ouais. Comme c'est un festival où bah, tout le monde, en fait, même les compagnies amateurs peuvent montrer leur travail. Voilà, c'est celui qui fera de la qualité. Le spectateur n'y s'y trompe pas. Si ça marche, si c'est vraiment le spectacle tient la route, il y aura du monde. Et surtout s'il suscite l'intérêt, si le thème est quand même sympathique. Alors, on y trouve de tout. Hein. On a vraiment toutes sortes de spectacles. Du spectacle musical, du spectacle jeune public le matin. J'ai pu emmener notre fille pour voir un spectacle. C'était.
Est-ce qu'il y a un spectacle Bob l'éponge ?
Non, mais ça aurait pu. Enfin, j'ai pas épluché les 1161 spectacles disponibles, mais il y avait des. Évidemment, c'est en rapport en général à la mythologie de l'enfance, aux contes qui existent déjà, sur le loup. D'ailleurs, il y a un spectacle assez génial, visiblement. Je l'ai pas vu, mais qui est vraiment affiché complet. On a voulu y aller, ça a été impossible. C'est Le Loup est revenu. Voilà, si jamais vous le voyez passer, vous avez des enfants, bah, allez-y, hein, il paraît que c'est assez génial. Sinon, moi, en 4 jours, j'étais contente, j'ai pu voir 3 spectacles. Donc, dans le In, le fameux nouveau roman de Christophe Honoré. Alors, c'était intéressant, mais un peu long, 3h30 hein, de spectacle. Entre actes compris, voilà, on avait nos petites couvertures, c'était marrant. Alors, j'ai eu un peu peur du sujet traité au début. Vous savez, le nouveau roman, c'est un courant littéraire qui est apparu après la Seconde Guerre mondiale. Mais finalement, comme c'était. Ils ont réussi, ils sont partis d'improvisation des comédiens et ça donnait quelque chose d'assez actuel, même un ton assez potage qu'on peut trouver dans certaines séries. Et finalement, ça m'a donné envie de lire du Marguerite Duras quand même.
Mmh. Oui, parce que du coup, Christophe Honoré, c'était le metteur en scène, c'est ça ?
Voilà, lui, c'est un fanatique de nouveaux romans, il a voulu faire un spectacle dessus.
Et, parce que c'est aussi un réalisateur.
Oui, enfin, il est réalisateur, il a fait les. Comment ça s'appelle ?
Les Belles Personnes.
Non, j'ai vu un cabaret sur Yvette Guilbert, peu déçu. Là, c'était vraiment traité poussiéreux. Et sinon, un cabaret sur les textes d'Aragon, qui ça peut arrêter un petit peu, mais en fait, non, c'était vraiment magnifique. Un spectacle d'1 heure qui s'appelle Je chante pour passer le temps, voilà, avec les musiques de Léo Ferré, Jean Ferrat.
Je chante pour passer le temps, petit qu'il me reste de vivre, comme on dessine sur le givre, comme on se fait le cœur content.
Et sinon, sur les terrasses d'Avignon, ce qui est génial, c'est qu'on peut parler à des gens qu'on ne connaît pas, et on parle surtout des spectacles qu'on a vus et qu'on aimerait voir. Et il y en a deux qui sont ressortis particulièrement. C'est le cirque de la famille Morales, et leur nouveau spectacle qui s'appelle Andiamo. C'est vraiment du cirque nouveau, et c'est pas une succession de numéros, mais c'est un parcours dans tout ce qui compose le cirque et le jeu du théâtre. Les circassiens accomplis, des tours de magie, des clowns, des acrobates, voilà. Et donc c'est un spectacle à voir en famille, donc si vous les voyez passés, ils sont en tournée dans toute la France et dans le monde entier aussi. Et sinon, beaucoup moins rigueur, mais magnifique, visiblement. C'est Henrik Ibsen, un ennemi du peuple, mis en scène par Thomas Ostermeyer, sur un médecin qui découvre que l'eau thermale de sa ville est polluée. Voilà, donc s'ensuit un combat pour faire éclater la vérité.
Bah ça, ce serait super que tu nous le mettes sur la page Facebook pour qu'on puisse s'en rappeler de tout ce que, enfin, de tous les spectacles dont tu viens de parler, là, si on les voit passer pas loin.
C'est intéressant, ouais.
Je n'y manquerai pas.
Et bien voilà, c'est la fin de l'épisode. Alors je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Twitter, @quidnovipdc, sur notre nouvelle page Facebook, où l'on trouve les telex qu'on a pu faire cette semaine.
C'est quidnovipodcast dans la barre de recherche, ou sinon facebook.com/quidnovipodcast, tout attaché.
Alors vous êtes plusieurs à nous avoir demandé un flux RSS pour s'abonner au podcast, alors vous allez être contents, ça va venir.
Voilà, on travaille dessus, on est dessus.
On est dessus, on est à fond, on est à 2000% pour vous, 2000% en toge, voilà, et on s'en va.
Merci beaucoup tous, et puis au revoir.
Bye bye.
À la prochaine fois. Et n'oubliez pas, la guerre la plus courte du monde a lieu entre le Royaume-Uni et le Zanzibar le 27 août 1896 et a duré 38 minutes.